insister sur l'importance de tenir encore ces procès, même 30 ans après.
Je me suis dit finalement, non, je vais vivre, je vais survivre.
Et maintenant, c'est quoi ? C'est vivre, ce n'est pas mourir, c'est vivre.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Kiboka 30, une série réalisée par Iboka Mémoire et Justice Belgique dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce programme est financé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est présenté par Ernest Sagaga, président de l'association Iboka Mémoire et Justice Belgique. Pour ce deuxième épisode, mon invité est le docteur Philippe Gakwenzile. Il est président d'Iboka Rwanda depuis 2022. Il est également historien et professeur à l'Université nationale du Rwanda. Cet épisode a été enregistré lors de la visite du docteur Gakwenzile à Bruxelles en juin de cette année, au moment où le procès de M. Nkundui Emmanuel alias Bomboko, poursuivi pour sa participation dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, arrivait à sa fin. Ce dernier a été reconnu coupable de crimes de génocide et crimes de guerre et condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises. Ma première question au Dr Gakwenzile porte sur ces procès qui se tiennent en dehors du Rwanda depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994.
Il y a en fait trois terrains. Le terrain rwandais, où la justice a passé par la justice traditionnelle rénovée, Gacaca. Et là, on dirait que vraiment, au Rwanda, on a fait un grand travail, même si on sait qu'il y a des cas toujours à traduire, mais qu'il reste à chercher. Et on sait aussi ce qui s'est passé à Arusha. Et aujourd'hui, le gros du travail reste dans les pays à l'extérieur du Rwanda, que ce soit en Europe, même en Afrique, en Asie, comme en Amérique, toutes les Amériques. Alors, en termes de bilan, le bilan reste vraiment minime. Parce qu'on sait que, par exemple, ici en Belgique, les premiers procès ont eu lieu en 2001. Et puis, il y a eu des années de silence, une dizaine d'années, 5 ans. On n'a fait que reprendre le travail dernièrement avec Néretse en 2019, et puis qui a été suivi par les procès de Vassavo Setoahirwa. On voit en fait là que pendant ces 30 ans, le pas a été vraiment très raccourci. Très raccourci, les eaux pour lesquelles ce serait vraiment une bonne occasion que les pays, les États, hein, je ne dis pas la Belgique, seulement la France et ailleurs, se rattrapent pour travailler d'arrache-pied, d'autant plus que nous sommes en train de subir un acte naturel des personnes qui sont en âge avancé, etc., les eaux pour lesquelles les instances judiciaires doivent franchement travailler d'arrache-pied pour repérer tous les cas qui se trouvent ici et là dans le monde entier.
Tout à fait. D'ailleurs, vous venez de parler de la France, là où plutôt le rythme semble s'accélérer un tout petit peu en comparaison des années passées. Vous y trouvez une certaine sensibilisation, une prise de conscience de la part des autorités françaises qu'il y a beaucoup de gens qui résident en France et qui ont trempé dans le génocide des Tutsis. Et est-ce que c'est le changement de la position du gouvernement français? Est-ce que c'est la justice qui se met en mouvement parce qu'il y a plus de moyens? À quoi attribuez-vous ce phénomène qu'on observe en France?
Réellement, un génocide est un acte politique et qui embrasse non seulement la population d'un pays, mais aussi qui envenime les relations entre les États. Et vous savez que la France, avec le génocide commis contre les Tutsis, y est vraiment là-dedans. Et ça a demandé à ce que des relations diplomatiques entre les deux pays soient un peu relaxes pour qu'on puisse aussi revoir les dossiers qui concernent la justice. Mais sinon, on savait qu'il y avait un bras de fer entre les deux États et puis les autres dossiers ne comptaient pas. Alors, c'est à travers ces relations qui s'émoussent petit à petit que la justice aussi a commencé à faire son travail. Et je crois qu'il faut toujours en profiter, cette opinion qui change. Je dirais que pour la population française en général, n'en est rien. C'est justement pour ces réseaux politiques, mais en même temps qui engagent aussi des instances judiciaires. Et que je dirais qu'il faut continuer d'aller de l'avant telle que la situation se présente aujourd'hui.
En même temps, sur le continent africain, il y a aussi pas mal de pays dans lesquels résident des suspects ou des personnes suspectées d'avoir trempé dans le génocide. On n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas eu un procès tenu dans un pays africain, autant que le Rwanda, bien entendu. Qu'est-ce qui cloche là-bas? Qu'est-ce qui fait que rien ne bouge?
Oui, on sait qu'en fait, là, même les mandats d'arrêt qui ont été émis sont en grande partie vers les pays africains. Alors, un problème, il n'y a pas d'extradition, sauf quelques cas. Il n'y a pas de jugement. Et justement, on devrait voir. Mais on sait que là aussi, un grand nombre de gens se trouvent dans les pays où nous connaissons les problèmes de sécurité, de l'organisation interne, etc., où les dossiers qui concernent la justice seraient vraiment relogués au second plan. Mais je crois qu'il faut vraiment toujours sensibiliser et refaire à travers des organisations régionales, continentales. Pourquoi l'Union africaine prendrait en main la sensibilisation, les autres organisations que nous connaissons régionales en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, pour repousser en fait les pays qui ne réagissent pas à ces mandats d'arrêt qui ont été émis par le parquet rwandais.
Alors, on est maintenant 30 ans depuis la fin du génocide des Tutsis. Le tribunal d'Arusha a fini ses travaux. Le mécanisme a également annoncé la fin des poursuites de recherche. Il se pose un problème de tout le processus, les archives, l'héritage de ce tribunal. Il y a un débat en cours pour savoir où doivent aller ces archives. Il y en a qui disent que les archives appartiennent aux Nations Unies, donc doivent être à Arusha ou à New York, je ne sais pas. Il y a d'autres qui disent qu'ils devraient plutôt être au Rwanda pour la mémoire, pour en tout cas les recherches, mais également la mémoire des victimes. Vous, comme Ibuka Rwanda, quelle est votre position? Et que faites-vous pour... D'abord, quelle est votre position?
Nous savons que la version officielle doit dire que ces archives appartiennent au Conseil de sécurité et que tout ce qui doit se faire doit passer par eux. Mais il y a les procès qui ont eu lieu, mais en même temps, il y a la mémoire, et surtout la mémoire qui va servir pour le futur. Les eaux pour lesquelles, pour nous, comme les survivants du génocide, nous voulons que ces documents se trouvent au Rwanda, non loin, en tout cas, des Rwandais eux-mêmes, non loin des victimes et de leurs descendants, pour qu'ils puissent aussi avoir ce matériel qui doit leur rappeler ce qui a été le passé, mais en même temps pour servir comme matériau de mémoire, d'éducation, d'histoire. Et je crois que c'est une question aussi qui se discute, mais pas d'une façon tout à fait officialisée. Mais je crois que ça doit être vraiment allé sur la table pour qu'on puisse en discuter et qu'on avance des idées. Mais surtout, avancer des idées à ce que ça doit nous aider aussi à la reconstruction du tissu social, de notre mémoire, et de l'idée de citoyenneté à tout le monde. Hein. Et donc, c'est très important. On ne doit pas attendre que ça se trouve dans autant de kilomètres loin de chez nous, alors que même les faits qui sont racontés dans ces documents ont eu lieu au Rwanda.
Et donc, la deuxième moitié de ma question, c'était qu'est-ce que Ibuka Rwanda fait pour justement influer dans ce débat, dans le but de faire en sorte que ces archives puissent être retenues, être conservées au Rwanda?
Normalement, ça c'est une question qui se résout entre États, mais l'État réagit en fonction de sa population. C'est pour cela que justement nous discutons à toutes les bonnes occasions pour sensibiliser l'opinion publique et les États pour comprendre l'importance d'avoir ces documents auprès des victimes, auprès des Rwandais eux-mêmes et auprès de l'État rwandais qui doit, en fait de compte, se considérer comme le dernier héritier de ce qui concerne le génocide commis contre les Tutsis, mais surtout aussi, comme je viens de le dire, comme un matériau didactique pour l'éducation de la population vers la paix durable. Et donc, nous profitons de toutes les occasions pour en discuter, pour en parler, mais surtout pour montrer l'importance d'avoir ces documents tout près de chez nous.
Justement, parlant de l'éducation, est-ce qu'il y a un processus, est-ce qu'il y a une stratégie, une politique d'inclure dans l'enseignement supérieur au Rwanda ou peut-être aussi secondaire, l'enseignement qui porte essentiellement sur le processus judiciaire en matière de génocide contre les Tutsis. Est-ce qu'il y a des leçons sur le processus devant le tribunal international d'Arusha ou même devant le tribunal Gacaca-Rwanda? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait pour exploiter ce qui est sorti vitamment de ces procès?
Ah oui, c'est en général, il y a des cours qui se donnent sur l'histoire du génocide commis contre les Tutsis à tous les niveaux, que ce soit à l'école primaire et secondaire, mais à des niveaux différents, bien sûr, en considérant le niveau pédagogique et cognitif de chaque étudiant. Et donc, ça embrasse aussi la justice qui a été utilisée, que ce soit au Rwanda, la justice traditionnelle, la justice, les procès qui ont eu lieu en Europe, mais surtout à Arusha. Donc, ça fait partie en fait, de notre histoire, de l'histoire qui est enseignée. Et immédiatement, on sait que, particulièrement pour les juristes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ces documents pour les exploiter. Hein. Comme un matériau, comme je disais. Alors là, on sait que ce soit pour des sociologues, des historiens, j'ai évité de commencer par des historiens, commencer comme par les autres quand même. Mais des historiens, et ceux qui se spécialisent dans la reconstruction des pays post-conflit. Mm-hmm. Hein. Vous savez que, par exemple, à l'Université du Rwanda, nous avons un centre de résolution des conflits qui a été créé, ça fait plus de 20 ans. Et le centre a été créé avec la reprise de l'université après le génocide. Et donc, chaque fois, on a besoin de ces matériaux tout près de chez nous parce que ça risquerait de demander beaucoup de moyens pour aller soit à Arusha, soit aux États-Unis. Alors, ce n'est pas pour les chercheurs seulement, même pour les étudiants, pour s'inspirer directement de ces documents. Vous savez, on dit qu'on va les numériser pour avoir accès directement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à mon sens. Je crois que même il faut multiplier des centres de documentation dans tout le pays,
tout à fait,
à travers les provinces que nous avons, les mémoriaux que nous avons un peu partout. Donc, pourquoi ne pas mettre les documents qui concernent, par exemple, un procès qui concerne le préfet d'Odi du Kongoro, qui concerne le préfet de telle préfecture, etc., pour les amener juste. Mais c'est, là aussi, c'est une sorte de réparation. Il existe plusieurs sortes de réparation. Même la vérité, tout près des victimes, tout près des Rwandais, ça fait partie aussi d'une sorte de réparation. On a besoin davantage aussi des réparations morales, parce que ça fait partie aussi de s'approprier de ce qui s'est passé au Rwanda. Mm-hmm. Et c'est à partir de là qu'on pourra aussi reconstruire notre société, reconstruire notre nation qui a été minée par l'idéologie de division, qui a été minée par la haine, qui a été minée par une politique qui n'avait rien à voir avec l'unité et la réconciliation, et que c'est pour le moment justement que nous devons avoir tout près de chez nous ce qui nous montre ce qui se passait dans le temps, le processus de réconciliation et de résilience que nous venons d'avoir pendant ces 30 ans, mais que nous souhaitons davantage de maintenir et d'y ajouter beaucoup d'autres ingrédients.
Alors, vous venez justement de parler d'archives et de mémoriaux. On sait maintenant que l'UNESCO a listé 4 mémoriaux au Rwanda, mémoriaux du génocide et des Tutsis, parmi le patrimoine mondial. Je suis sûr que vous avez accueilli favorablement cette décision.
Ah oui, nous avons accueilli favorablement cette décision que nous attendions pendant tant d'années aussi. Et nous avons participé à l'évolution du dossier, que ce soit en donnant des idées, des opinions, mais aussi à travers nos expertises personnelles. Et nous savions que ce que nous cherchons en tant que Rwandais, en tant que rescapé, et justement, c'est très important à ce que la décision a été favorable à la demande du gouvernement rwandais.
Rappelez-nous encore les 4 mémoriaux, s'il vous plaît.
Les 4 mémoriaux, il y a le mémorial du génocide commis contre les Tutsis qui se trouve à Gisozi, donc dans la capitale du Rwanda. Le second se trouve à Nyamata, et c'est une église où des Tutsis ont pris refuge depuis les années 91 et 92, et que finalement, en 94, ils ont été largement massacrés là-dedans. Et donc, cette église a été gardée comme symbole de toutes les églises au Rwanda où le génocide a eu lieu. Et on sait aussi que l'histoire de cette région de Bugesera où se trouve la colline d'Onyamata est aussi très emblématique par la préparation à la conception et à l'exécution du génocide commis contre les Tutsis. Le troisième mémorial se trouve à Bisesero, où les Tutsis de cette région ont résisté pendant presque les 100 jours. Ce n'est que vraiment les derniers moments que la résistance a été cassée. Le jour de connu pour commémorer ce qui s'est passé là-bas, c'est le 27 juin de chaque année. Donc, vous voyez, c'est quelques semaines avant la prise de Kigali et la fête du génocide en général. Et l'autre, c'est le mémorial de Murambi qui se trouve dans le sud du pays. Là aussi, une région, malheureusement, qui a connu une très mauvaise expérience d'exécution et de persécution des Tutsis depuis 1959, surtout en 1963. Et tous les épisodes de là, du génocide commis contre les Tutsis jusqu'à 1994. Voilà en fait les quatre mémoriaux qui ont été retenus à la liste d'inscription du patrimoine de l'humanité.
Alors, vous avez tout à l'heure parlé de la résilience des rescapés. Comment se porte-t-il au Rwanda?
Oui, la question de résilience, c'est une question dont on discute. On ne se pose pas la question, on en discute en fait. Comment le Rwanda a fait? La résilience du Rwanda, des Rwandais, des survivants, s'est manifestée même à la fin du génocide. À la fin du génocide, cette résilience s'est montrée, mais on n'a pas trouvé le terme pour désigner. Vous savez qu'en Kinyarwanda, nous disons « Ubudaheranwa ». Nous avons vécu. En fait, le Rwanda, c'est une nation très ancienne. Une nation qui a eu des problèmes, mais aussi qui a cherché des solutions. Et vous savez, le fait que le génocide commis contre les Tutsis a été stoppé par les Rwandais eux-mêmes, c'est vraiment très significatif. Et c'est à partir de là que tout le monde s'est senti obligé à participer à la reconstruction du pays. Les survivants du génocide ont été sauvés par l'armée du FPR et qui a été le moteur pour la reconstruction du Rwanda post-génocide. Et donc, vous savez, dernièrement, on entend partout dans les témoignages que lorsqu'un soldat du FPR parvenait à sauver un Tutsi, il disait « Désormais, votre vie est sauve ». Et c'est à partir même de cette expression, malgré les souffrances qu'on a eues pendant autant d'années, jusqu'au paroxysme du génocide, qu'on se sentait vraiment repris par quelqu'un du moins qui peut te prononcer, qui vaut du bien. C'est à partir de ce moment que la résilience a commencé et jusqu'aujourd'hui.
Pour terminer notre podcast, cher Philbert, nous parlons toujours de la transmission de la mémoire. Cela fait maintenant 30 ans qu'on y travaille. D'après vous, quelle serait la meilleure façon de faire pour assurer la transmission de cette mémoire? Est-ce qu'il y a des stratégies, des bonnes pratiques en la matière?
Oui, pour ces 30 ans qui viennent de se passer, il y a beaucoup d'entreprises, de projets, de conservation, de mémoire qui ont eu lieu. Ce que je me dis, c'est que d'abord, nous devons faire un retour en arrière pour faire un bilan, pour voir ce que nous avons et comment ça a été fait. Est-ce que ce qui a été conservé d'une façon qui serait pérenne? Et qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Quels sont peut-être les côtés oubliés? Et je me dis que pour ces 30 ans, nous devons faire une sorte de bilan, mais surtout à se dire, il y a les 30 ans qui viennent de se passer et nous voulons que ce soit les 30, puis 30, puis 30, jusqu'à l'éternité, c'est ce que je me dis. Et justement, l'un des points qui montre la résilience et la mémoire et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fait que même les survivants du génocide eux-mêmes ont créé des organes d'expression et de soutien mutuel, et d'expression de soutien mutuel et de plaidoirie. Et justement, les premières associations étaient créées juste quelques mois avant la fête du génocide. Et c'est très significatif. Nous devons y revenir pour voir où est-ce que nous avons tiré ces énergies, justement, et comment nous avons utilisé ces énergies pour ces 30 ans, et qu'est-ce que nous devons transmettre à la jeune génération. Et c'est justement là et que nous devons nous asseoir le plus tôt possible pour en discuter à bâton rompu, mais surtout avoir une occasion de prendre des décisions qui vont aussi aider la génération future.
Et c'est tout pour cet épisode de notre série Kwibuka 30. Nous avons couvert avec le président d'Ibuka Rwanda, Dr Philbert Gakwenzile, l'état des lieux avec les procès des personnes accusées et jugées devant les juridictions en dehors du Rwanda pour leur participation au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Nous avons également abordé la question du destin des archives de l'ancien tribunal pénal international pour le Rwanda, les quatre sites mémoriaux du génocide au Rwanda inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que sur les bonnes pratiques dans la transmission de la mémoire au bénéfice des générations à venir. Je remercie mon invité, Dr Philbert Gakwenzile, président d'Ibuka Rwanda et professeur d'histoire à l'Université nationale du Rwanda. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de la série des podcasts Kwibuka 30.